Hier soir, ça fait des mois que les professionnels des banques, des assurances planchettent avec Bercy sur l'épargne retraite. Oui, est-ce qu'on va assister, est-ce qu'on allait assister à une refonte de tous les systèmes, le PERP, le PERCO, l'article 83, le Madelin, un système kafkaïen des sommes dérisoires. Dixit, Bruno Le Maire qui nous promet de la simplicité, de la lisibilité, de la liberté dans le cas de la loi Pacte sur le financement de l'économie. Alors, est-ce qu'on va assister au Big Bang attendu? À voir, est-ce qu'on va oser sur une épargne plus risquée? Est-ce que l'épargne retraite va enfin décoller en France? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, c'est le ministre qui parlait de chiffres dérisoires ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Un marché encore très peu développé. Je cite les chiffres de la Fédération française de l'assurance. 190 milliards d'euros d'encours fin 2016. Là où l'assurance vie totalise près de 1700 milliards d'euros d'encours. Tiens, la FFA, présidée par Bernard Spitz. Il est avec nous, le président de la Fédération française de l'assurance. Jérôme Dédéian, fondateur de la société de conseil et de gestion RS, que vous retrouvez régulièrement dans Les Experts avec Nicolas Dose le matin sur BFM Business. Aude Elgemayel, elle est directrice du pôle entreprise chez Cedrus Partners, qui est une société de conseil d'investissement. Et puis celui qui est d'habitude à ma place, ici, aux environs 10 heures, avec son complice Cédric Decoeur dans Intégral Placement, c'est Guillaume Sommerer, journaliste à BFM Business, auteur de Placement musclé, votre épargne dès le premier euro. Il doit en rester quelques-uns, allez-y, profitez-en. Tiens, Guillaume Sommerer, on va voir avec vous donc les annonces faites par Bruno Le Maire, donc ce matin, le ministre de l'économie. Donnez-nous vraiment l'essentiel, puis on y reviendra, on va détailler tout ça au fur et à mesure.
Moi, le sentiment que ça me donne, c'est que c'est une réforme pour redonner de l'attrait à l'épargne salariale, mais c'est une réforme plus impressionniste qu'impressionnante, par petites touches, c'est ça que je veux dire. La grande nouveauté, c'est la portabilité des principaux produits d'épargne retraite. Alors, on rappelle, il y a le PERCO, le PERP, l'article 83, le Madelin. Ils offriront désormais une portabilité. Vous changez d'entreprise, vous pourrez quand même rester accompagné des produits d'épargne retraite dans lesquels vous aviez auparavant investi. Alors, ça présente plusieurs avantages. D'abord, si vous êtes content de ces produits, vous les gardez, très bien. Ensuite, ça va mettre en concurrence davantage peut-être aussi les produits d'épargne retraite. Ça se fera au bénéfice donc des particuliers. Puis, ça va moderniser l'épargne retraite dans un monde où on est amené à changer de plus en plus d'entreprises. Eh bien, ça va mettre l'épargne retraite à la page. Ça, c'est la première chose, le premier levier pour rendre l'épargne retraite à nouveau attractive. L'autre levier sur lequel veut appuyer le gouvernement, c'est la sortie possible en capital. Vous savez que les Français n'aiment pas la rente parce qu'elle est lourdement fiscalisée, parce qu'elle est progressive et qu'on préfère peut-être parfois aussi récupérer tout son argent d'un seul coup. Eh bien, désormais, Bruno Le Maire s'engage à ce que tous les produits d'épargne retraite permettent une sortie en capital. La question qu'on peut se poser, c'est 100% en capital pour tous les produits ou pas?
Parce qu'on y reviendra, bien
voilà,
sûr.
Ouais. C'est une question qui demeure. Et puis, autre annonce, quand on investit dans ces produits d'épargne retraite, eh bien, on va désormais pouvoir défiscaliser. Ah. J'investis 1000 euros, je pourrai déduire 1000 euros de mes revenus imposables, quels que soient les produits d'épargne retraite.
Bon, tiens, on va revoir chacun des points, bien sûr. Il va falloir nous expliquer chacun des points. Jérôme Dédéian, là, je reviens juste là sur le point, là, la sortie sera libre. Soit en rente, soit en capital. Ce qu'il faut déjà nous réexpliquer, Jérôme Dédéian, ça veut dire quoi? Le particulier pourra récupérer son épargne retraite en une seule fois, c'est ça?
Voilà. Alors, l'idée, c'est de partir de ce qui se passe pour l'épargnant au moment où il arrive à la retraite. Il a accumulé un capital par différents moyens au sein de sa vie professionnelle, dans son contexte professionnel, à titre personnel avec des versements volontaires. Ce capital a fructifié, il en dispose, et l'idée c'est qu'est-ce que ça fait, comment c'est converti en une séquence de revenus qui lui permet d'améliorer son train de vie par rapport à ce que lui serviront les régimes de par répartition, obligatoire par répartition, le fameux taux de remplacement en pourcentage du dernier revenu d'activité. Et donc, en fait, on a aujourd'hui des solutions financières qui sortent en capital, des solutions financières qui sortent exclusivement en rente viagère. Et en fait, le choix qui est fait par le gouvernement, c'est de dire on va laisser l'épargnant, on va penser à l'épargnant, on va le laisser libre de sa séquence de décumulation au moment où il va avoir la disposition des sommes.
Je cite Bruno Le Maire, c'est à l'épargnant de décider de ce qu'il veut faire de son argent au moment de partir à la retraite. C'est clair, mais...
Alors, ce qu'il en attend, c'est un pari.
Oui.
Parce que ce qu'il en attend, c'est évidemment que l'appréhension ou la faible appétence que les Français ont pour la sortie en rente viagère qui aliène le capital, qui ne permet pas la transmission, etc., qui est un frein. Parce que les gens mettent de l'argent dans ces produits-là plutôt que dans leur livret A, pour la faire courte, qui était une très mauvaise solution pour préparer sa retraite. En fait, ils pensent qu'en débloquant la possibilité ou la souplesse à la sortie, on va inciter les gens à remplir le tuyau à l'entrée. C'est ça le pari. Et que du coup, nos fameux 200 milliards ou 180 milliards que vous évoquez vont devenir beaucoup plus, à la fois par, un décalage plus fort des 60, un peu plus de 60 milliards d'épargne financière des Français chaque année sur ce type de produit, et deuxièmement par éventuellement des transferts en provenance notamment des livrets défiscalisés qui sont complètement surdimensionnés et dont, ça vous amusera, les enquêtes du patrimoine de l'INSEE disent qu'il y a déjà 5% des Français qui déclarent que leur livret A c'est pour leur retraite. Alors ça fait sourire quand on voit son rendement. On voit bien que là il y a une aberration complète. Bien sûr. En termes réels, c'est complètement idiot.
Donc ça permettrait de booster le système?
Normalement oui. Parce que en libérant le tuyau à la sortie et en donnant une incitation fiscale généralisée à l'entrée, on va inciter les gens à utiliser cette incitation fiscale et à flécher leur épargne vers ces produits-là.
Vous, Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance, est-ce que c'est un bon système, à vos yeux, de pouvoir choisir soit la rente, soit le capital? J'ai pas l'impression, quand on est représentant de tout ce monde des assurances, qu'on est forcément d'accord. Vous en avez vraiment envie ou pas?
Vous savez, déjà aujourd'hui, les gens, vous disiez le livret A, les gens considèrent que c'est pour...
Il y a une partie des gens qui disent que c'est pour leur retraite.
Et quand vous interrogez les titulaires de l'assurance vie, aussi disent que l'une des premières motivations, c'est la retraite.
21%.
En fait, les gens, ils quand ils font de l'épargne, c'est pour l'avenir. Et donc l'avenir, selon l'âge qu'ils ont, s'ils ont 20 ans, c'est pas la même chose que s'ils en ont 40, 50 ou 60. Donc déjà aujourd'hui, les gens... chacun peut faire un arbitrage entre des produits de type épargne, ceux qu'on vient de citer et plein d'autres, et puis ce qui est la retraite. La retraite, c'est ce qui va accompagner, c'est le revenu supplémentaire le revenu qui va accompagner les Français jusqu'à la fin de leur vie, une fois qu'ils sont retraités. Et il faut bien voir une chose, quand quelqu'un a 65 ans, il a en moyenne 25 ans d'espérance de vie. Peut-être plus, et d'ailleurs ça augmente chaque année. Donc, il va falloir gérer cette situation. Si vous avez du capital et la capacité à le gérer, c'est quelque chose qui peut se concevoir. Personne ne peut être contre l'idée de liberté, bien évidemment, ni les assureurs, ni personne. Mais il y a des gens qui peuvent se retrouver en situation difficile et pour lesquels il faut assurer la sécurité. Ouais. Et le ministre a d'ailleurs dit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a dit la rente n'a pas une fiscalité suffisamment attractive. Il dit qu'il va l'améliorer. C'est bien l'idée derrière qu'il y a une vertu à la rente. Et donc toute la question et tout le débat qu'on va avoir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait comme différentiel qui puisse inciter les gens qui sont dans cette situation d'avoir besoin de sécuriser leurs revenus, qu'est-ce qu'on fait pour les inciter effectivement à aller dans cette solution sûre, plutôt que d'être tentés par la disponibilité immédiate, mais avec le risque de pas être capable de gérer leur situation jusqu'à la fin de leur vie.
On va y revenir, Jérôme Dédéian ou Guillaume Sommerer, c'est un risque pour certains, justement, de pouvoir tout prendre d'un seul coup.
Ça peut être un risque. Déjà, c'est pas dans la philosophie déjà de l'épargne retraite. Ouais. D'ailleurs, la rente, si vous voulez, quand on perçoit ces agirs, quand nous verse la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est sous forme de rente, on s'en plaint pas. Donc pourquoi est-ce que quand il s'agit d'épargne retraite, on s'en plaindrait? Ça, c'est la première question. Donc la philosophie à la retraite, c'est plutôt de percevoir des revenus réguliers. Ça, c'est la première chose, exactement. Et c'est vrai que derrière, il faut arriver à gérer dans la durée, tout est dans la philosophie de la durée quand on est à la retraite, et c'est vrai que tout percevoir d'un coup, ça peut inciter certains à l'investir autrement et peut-être pas au fil de l'eau comme la retraite exige.
Ça serait quoi l'intérêt, Jérôme Dédéian, de tout percevoir d'un coup?
Je vois quand même un intérêt à dire aux Français, à dire aux épargnants, vous avez de la souplesse. Quand vous rentrez dans le produit, vous avez de la souplesse à la sortie pour que vous ayez envie d'y rentrer. Ensuite, il y a vraiment la question de la qualité du conseil qui est délivré à la sortie. Donc moi, je vais la faire courte. RS, on fait et de l'assurance et de l'épargne salariale, et de l'assurance retraite et de l'épargne salariale. On travaille avec 2400 distributeurs à valeur ajoutée, qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers en assurance, des experts comptables. J'ai moi-même une casquette patronale dans le courtage d'assurance. On sait bien qu'il y a un besoin d'accompagnement. Guillaume l'a très bien décrit dans son bouquin sur l'épargne des Français. Il y a un besoin de conseil et d'accompagnement qui est très élevé pour chaque épargnant. Et c'est sûr que celui qui a du patrimoine personnel accumulé sur des produits purement financiers avec de quoi voir venir, il va peut-être vouloir vraiment avoir du capital parce qu'il n'a pas besoin de sécuriser des revenus compte tenu de sa surface financière. Et en revanche, il y en a qu'il faut absolument accompagner pour qu'on soit sûr qu'il puisse sécuriser un revenu régulier, ce qui peut se faire soit avec une rente viagère, mais qui a le désavantage que elle aliène le capital, donc elle n'est pas transmissible, modulo des options d'annuité garantie, enfin de la technique que Guillaume a parfaitement décrit dans son, mais qui est un peu compliqué à comprendre, ou une séquence de décumulation en capital, mais par rachat partiel programmé, ce qu'on peut appeler une rente financière, qui permet d'être sûr qu'on a bien une séquence qui vous protège quand même contre votre risque de longévité, que les assureurs connaissent bien puisqu'ils sont armés pour le couvrir.
Bernard Spitz, regardons ce qui s'est passé au Royaume-Uni, il y a quoi, 2 ans, 3 ans, à peu près, il y a eu un tel système.
Il y a une réforme.
Dites-nous ce qui s'est passé là-bas, racontez-nous.
Ça ne fait que 3 ans, donc c'est court. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y a donc eu aussi une possibilité de sortie en capital tout à fait ouverte dans un pays quand même. Le Royaume-Uni, qui n'a pas la même culture financière et économique que la France. Hein. Donc, faut être quand même mettre les choses en situation. Donc, il s'est passé que les gens ont choisi massivement la sortie en capital et que un tiers d'entre eux n'a pas pris de conseil financier particulier. Et donc, il y a donc toute une série d'articles qui montrent qu'il y a eu des gros problèmes. Ouais. Qu'il y a eu des gros problèmes parce qu'il y a des gens. Alors, bien sûr, c'est là où on rentre vraiment dans la difficulté du sujet parce qu'on raisonne en macro ou on raisonne individu par individu. Si on raisonne de façon macroéconomique, il y a beaucoup de vertus à aller dans les directions qui sont faites. Après, il faut éviter qu'il y ait des gens qui soient les victimes du système. Et en Angleterre, ça pose problème. Il y a un débat au Parlement là-dessus. Il y a eu des articles dans la presse britannique et pas dans la presse et dans une presse libérale, hein, parce que le Financial Times, c'est pas exactement néo-gauchiste. Et il y a également un souci qui a été marqué par le régulateur, enfin, le superviseur anglais.
Mais, d'ailleurs, les Anglais, parce qu'ils n'ont pas eu la traduction encore britannique de placement musclé votre épargne dès
On est dans un contexte financier très différent. Il n'y a pas d'assurance vie en Angleterre. Il y a des pensions. Enfin bref, il faut c'est... comparaison n'est pas toujours raison. Il y a un risque.
Jérôme Dédéant et ensuite Aude Elgemayel.
Moi, j'ai juste un truc, c'est qu'évidemment, il y a un premier niveau de réponse qui est pas de vente sans conseil. Hein. Là, je remets ma casquette de distributeur à valeur ajoutée. Pas de vente sans conseil. Et la vente sans conseil, c'est à la fois sur le choix de la solution technique pendant la phase d'accumulation, la phase de capitalisation, et le choix de la séquence de sortie. Et donc, donner de la souplesse, mais l'accompagner d'un conseil approprié, me semble indispensable pour que ceci soit encadré dans une bonne solution.
Et on pourrait panacher, là, c'est la question que se posait
Guillaume. Ça me semble quand même préférable, je suis fondamentalement libéral.
De quoi de panacher voilà.
De laisser la liberté de panacher, bien sûr. Et ça me semble quand même préférable de laisser la liberté pour pouvoir tenir compte de la situation de chacun, tout en mettant le conseil à valeur ajoutée ou en le rendant obligatoire et en l'encadrant, de façon à ce que les gens soient correctement conseillés.
Et cette liberté, elle va jusqu'où? Parce que la sortie en rente, elle va être fiscalement plus avantageuse quelque part.
Alors là où le gouvernement joue pas trop mal, c'est que si on regarde ce qui se passe dans la loi PAC, là, je vais laisser la parole à Aude, bien sûr. Juste pour dire, sur cette séquence de décumulation de tout ce qui aura vécu cet avantage fiscal à l'entrée, là. Non. En fait, il veut une neutralité fiscale affichée sur les conditions de sortie. Il dit capital en une ou plusieurs fois ou rente à vie égale même type de fiscalité. Mmh. Il y a quand même un avantage intrinsèque à la rente viagère parce qu'elle aura l'abattement de 10% sur les pensions
au moins.
Des revenus au moins. Voilà. On pourrait lui mettre un petit sur ça ou sur une séquence encadrée de décumulation financière en retrait partiel programmé, on pourrait mettre un avantage supplémentaire. Mais il y a un truc qui est important, c'est que compte tenu du fait que la sortie en capital, puisqu'elle aura bénéficié de l'avantage à l'entrée, sera intégralement fiscalisée à l'impôt sur le revenu, expliquez-moi, même avec une décroissance de votre taux marginal d'imposition à la sortie, parce que les régimes par répartition vous donneront moins de revenus, comment vous allez prendre tout votre capital d'un coup pour vous prendre une tranche marginale d'imposition colossale dessus, vous allez forcément séquencer. Donc il y a intrinsèquement, et c'est ça que parie le gouvernement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des avantages hein, à une sécurisation.
Bien sûr. Enfin, séquencer sur 30 ans, c'est pas pareil que sur quelques années.
Bien sûr, et donc il faut qu'il y ait forcément un encadrement long.
Alors, Aude Elgemayel, directrice pôle entreprise chez Cedrus Partners, on vous écoute.
Alors moi, je suis dans la droite ligne de ce que vous nous exprimez.
Jérôme Dédéant, oui.
Monsieur Dédéant. Et en fait, vous avez un vrai sujet aujourd'hui, même si... Ce qu'a annoncé Bruno Le Maire va dans le bon sens, on peut dire merci monsieur le ministre. Aujourd'hui, on coche la case de l'intéressement, de la participation, on réfléchit à la sortie, mais comment est-ce qu'on anime la vie du contrat? Comment est-ce qu'on réconcilie le salarié, l'épargnant avec son épargne salariale? Et on en fait un vrai sujet de retraite complémentaire importante comme dans les pays anglo-saxons et pas un plus qui va être géré un peu de loin. Et il y a vraiment des... il faut trouver un nouveau type de support, peut-être aussi sortir des classes d'actifs traditionnelles pour aller sur des supports plus concrets, pour pouvoir davantage parler aux salariés qui construisent vraiment sa retraite. C'est par exemple le fait d'introduire des classes d'actifs non cotées où le salarié va pouvoir investir dans des PME ETI, c'est aussi le sens des réformes, dans de l'infrastructure, dans de la dette privée. Donc ça veut dire que il va préparer sa retraite en investissant dans la bretelle d'autoroute qui va être empruntée par des dizaines de milliers de personnes pour aller travailler. Et donc, cette carotte fiscale, c'est vraiment un bon outil. Et le fait de vouloir déployer l'épargne salariale à un maximum de gens et inciter les entreprises à le faire, c'est une bonne chose. La sortie aussi, faut aussi penser à travailler vraiment sur la vie du contrat, sinon on passe à côté de quelque chose.
Jérôme de Deyan.
Oui, alors là-dessus, évidemment, et sans prêcher pour la paroisse des distributeurs à valeur ajoutée que je représente, évidemment, donc pas de vente sans conseil et la revalorisation du rôle de conseil, mais il y a aussi évidemment un énorme atout que tous les acteurs industriels et les acteurs de la distribution, consultants, etc. vont avoir, c'est le numérique. C'est-à-dire que on va rentrer de plus en plus dans une relation individuelle avec l'épargnant qui va être assistée par des outils, présence humaine plus ou moins forte ou non, et qui va permettre justement d'encadrer et la phase de capitalisation et le conseil sur la phase de sortie de façon beaucoup plus industrielle et notamment pour les ménages les plus modestes dont on a tous le souci parce que c'est ceux pour lesquels un éventuel accident de parcours à la sortie peut se poser. Et donc cet accompagnement-là ne veut pas dire qu'il faut faire le bien des gens malgré eux en décidant à l'origine qu'on leur propose de rentrer dans un truc avec un truc à la sortie qui leur convient pas parce qu'ils le comprennent pas ou qu'ils ne l'acceptent pas et parce qu'ils pourront pas le transmettre, etc. Mais on peut tout à fait avoir une très forte sécurité offerte à la sortie avec des moyens numériques, du conseil humain. Mais il faut juste que dans la réglementation, on n'oublie pas que tous les gens qui vont monter les produits, alors là, on a des directives européennes par-dessus la tête entre les industriels fabricants et les courtiers grossistes, les machins qui construit le produit, qui est co-responsable, etc. Mais il va bien falloir mettre des normes de guidance, de conseil, à la fois et pas seulement dans la phase choix de la solution technique et mode d'alimentation et de capitalisation, mais aussi dans la phase de décumulation. Et je pense que ce point est fondamental pour la protection de l'épargnant.
Alors Bernard Spitz, hein.
Oui, je crois que ça nous oblige tous à bouger. D'une façon générale, je crois qu'il faut être très clair sur le fait qu'il y a un consensus sur l'idée qu'il faut une part plus importante qui soit donnée à la capitalisation dans le financement de la retraite. La France, il faut quand même voir les choses, la France est un pays aberrant par rapport à l'ensemble du monde occidental. On a chaque année, pour que les gens comprennent, sur 100 euros versés en prestations de retraite, il y en a entre 2 et 3 qui viennent de la capitalisation. La moyenne au niveau de l'OCDE, c'est 15. Et dans des pays voisins, l'Allemagne, c'est 25. L'Angleterre, c'est 50. Enfin, voilà. On est vraiment dans un...
Ce que disait Philippe Crevel du Cercle des épargnants ce matin, il y a un réel besoin de supplément par capitalisation, tant pour les futurs retraités que pour l'économie. Il rappelait exactement les chiffres que vous venez de donner.
Voilà. Et ça, c'est donc un consensus. Après, donc, la question, c'est ensuite... quelles sont les modalités pour parvenir à trouver ce bon équilibre entre donc ce financement, les possibilités et l'utilisation du capital pour ceux dont pour qui c'est la meilleure solution, et puis la sécurité pour les autres. Et ça fait appel, je crois que vous l'avez dit tous les deux, et c'est, je suis entièrement d'accord, à aussi une idée qu'il faut évoluer dans l'éducation financière des Français. Ouais. Parce qu'on compare des pays qui ne sont pas comparables. L'éducation financière anglaise, en dépit du fait qu'il y a des problèmes, et ce qui montre bien que l'affaire n'est pas simple, elle est quand même différente, et on peut dire en moyenne supérieure à celle des Français. Et donc, on a un effort collectif, absolument, l'État, les professionnels,
les distributeurs,
tout le monde, pour donner cet effort. Et cette éducation financière, c'est un des enjeux, parce qu'on parle de long terme, là. On parle de choses qui vont structurer plusieurs décennies.
C'est vrai, l'éducation financière des Français...
Et vous y contribuez, ici.
Bien sûr, j'espère bien. Pas de vente sans conseil, ce que vous cessiez de dire. Guillaume Sommerer, c'est vrai que les buts recherchés par Bruno Le Maire, justement, c'est de rendre plus attractif cette épargne retraite, hein, faire en sorte de proposer des produits alternatifs. Alors, pour certains, un petit peu plus risqués, comment inciter justement les Français à aller sur des produits plus risqués? Il y a quand même un réflexe sécuritaire des épargnants. C'est Nicolas Dose qui l'expliquait encore ce matin. Aux États-Unis, on met une action Google dans le berceau du nouveau-né. En France, on met un livret A. Voilà, les gens préfèrent l'assurance vie au livret A, au PEL et au PEA.
Oui.
Voilà.
Mais c'est pas forcément par méconnaissance. C'est assumé de la part des Français. Il y a eu un sondage récemment de Doxa dans lequel 71% des Français, 71% disaient qu'ils préféraient un placement sûr à un placement qui rapportait. Voilà. Ce qui compte pour eux, c'est d'abord un placement sûr. Et vous le disiez, c'est culturel. Alors cette culture, elle vient peut-être d'un défaut d'information financière. Il y a un classement d'Allianz qui montre que les Français Français sont en Europe le peuple qui a la plus faible culture financière derrière les Portugais et les Italiens. Donc peut-être qu'on le paye, que ça se traduit par cette culture de la peur du risque. On ne comprend pas le système financier, on ne comprend pas comment ça marche, c'est trop complexe. Du coup, on préfère miser sur la sécurité, c'est le refuge.
Mais ça, c'est la clé de la réussite du projet de Bruno Le Maire, justement, inciter les gens à aller plus sur des produits d'épargne retraite peut-être plus risqués et délaisser. Mais s'alléger sur l'assurance vie.
Je suis pas totalement certain que ça marchera, d'abord parce que le propos qu'on a là, les échanges qu'on a là sont extrêmement intéressants, mais ils restent très techniques. Je pense que 99% des Français peuvent se sentir largués encore par tout ce qu'on raconte aujourd'hui, et je suis pas convaincu que les efforts d'harmonisation qui ont été mis en avant par Bruno Le Maire suffiront pour l'immense majorité des Français. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si la meilleure façon de préparer la retraite pour les Français, en tout cas celle qu'ils choisissent, ce sont pas les produits d'épargne retraite, c'est pas encore complètement l'épargne salariale, c'est l'immobilier, parce que ça c'est plus simple.
Ah ben on comprend, voilà.
Ben oui, voilà. Ça c'est le premier produit d'épargne retraite.
Voilà. Et placement, muscler votre épargne dès le premier euro qui s'arrache, qui se vend tous les jours, bien sûr. Aude Elgemayel, Cedrus Partners.
La problématique d'éducation est réelle. J'avais un dirigeant d'une très belle ETI, donc très bon niveau, qui me disait récemment qu'il n'avait aucune idée des supports de placement de son épargne retraite complémentaire. Alors que il est sur des sujets complexes financiers, il conquiert des nouveaux marchés tous les jours, mais ça il n'en a aucune idée. Donc aujourd'hui, l'épargne salariale, on dit souvent que c'est le parent pauvre de l'asset management, et la majeure partie des encours va être sur des supports très court terme où vous êtes sûr de perdre de l'argent, alors que votre horizon de placement est moyen à long terme en fonction de votre départ à la retraite.
Voilà. Alors, je vais dire à c'est Jérôme Médaillant qui a la responsabilité de cette absence de culture ou de cette insuffisante culture financière du placement des ménages français. En fait, je pense qu'on on a une responsabilité collective là-dedans. Quand on dit qu'on a une hypertrophie dans l'épargne financière des Français, délivrée défiscalisée, livret A, PEL, je mets dans le lot, et de l'assurance vie en euros. En fait, ça fait des années qu'on a proposé aux clients un actif liquide, donc un produit de placement liquide sans risque et à rendement historiquement élevé, puisque on avait des taux courts et des taux d'intérêt et des taux longs qui étaient suffisamment attractifs pour rassembler une proposition de valeur, et qu'à l'époque les contraintes de solvabilité qui pesaient sur les assureurs ne les avaient pas encore complètement mis sous une pression telle qu'en face d'actifs longs ils ne peuvent même plus, en place d'engagement long ils peuvent même plus mettre d'actifs longs. Bon, donc c'est ce paradigme là qu'on essaye de casser. C'est la première fois qu'un gouvernement essaye de s'y attaquer de façon aussi brutale. Bon, il faut quand même le dire, et c'est un peu brutal, parce qu'ils y vont franchement. On peut pas dire qu'ils aient bien traité les industriels du secteur ces derniers mois. Mais ça a quand même le mérite d'expliquer qu'il va falloir remettre de la valeur au temps d'épargne. Et que la prise de risque est réduite quand on a des systèmes à versement réguliers, d'où l'idée d'une défiscalisation annuelle que je vais venir chercher pour essayer de lisser mon entrée sur les marchés et les actifs risqués, et deuxièmement, qu'on va donner le temps de la capitalisation. Ça a été tenté dans énormément de pays avec ce qu'on appelle la default investment option, l'option d'investissement par défaut des produits d'épargne retraite, qui est un truc qui vous fait prendre plus d'actifs risqués au début et qui va progressivement désensibiliser votre épargne en sécurisant vos plus-values au fur et à mesure que vous vous rapprochez du moment où vous aurez besoin de commencer votre phase de décumulation. C'est ce qui s'est passé sur le 401k aux États-Unis quand ils ont mis cette default investment option, ben les gens ont arrêté d'être investis dans les SICAV en dollars monétaires. C'est ce qui s'est passé sur le PERCO où on est sorti du monétaire grâce à la loi croissance et activité où on a créé le PERCO Plus avec ce système de désensibilisation obligatoire. De ce point de vue-là, le projet PACTE prévoit la généralisation de ces systèmes de désensibilisation de gestion pilotée retraite, ce qui va arranger tous les industriels parce qu'ils sont moins consommateurs de fonds propres qu'un actif général de base, et qui permettra quand même d'avoir des gens dans une allocation suffisamment sécurisée à partir du moment où ils versent régulièrement et où on s'occupe pour eux de la désensibilisation.
Bernard Spitz.
En fait, notre discussion, je crois qu'on est assez consensuel. Et en fait, il y a deux ans pour voir la chose. Si on se passe du point de vue de l'épargnant, du retraité, à ce moment-là, on est dans cette configuration particulière à la française. Parce que c'est pas quand on dit les assureurs font ci, font ça. Non, l'argent n'est pas l'argent des assureurs. L'argent est celui des assurés. Et donc, ils peuvent pas faire prendre aux assurés, qui sont leurs clients, des risques qu'ils n'ont pas envie de prendre. Donc, la limite, elle est là. On s'adresse à chaque Français qui est un assuré ou un épargnant, et donc c'est lui qui décide à la fin, effectivement. Et donc lorsqu'on discute de la façon dont lui peut concevoir son avenir, c'est une chose. Lorsqu'on parle du financement de l'économie, c'en est une autre. Et le problème, c'est de réconcilier les deux. On n'arrive pas à faire l'un des objectifs, c'est de financer l'investissement long. Si on a des produits qui sortent en capital plus tôt, ça va pas aller forcément dans le sens d'une duration allongée, et donc ça peut avoir des effets exactement inverses. L'élément de peut-être optimiste sur la capacité progressive des Français à accepter, mais il faut le temps, on peut pas le faire non plus par des coups de boutoir. C'est ce qu'on observe, ce qu'on a observé au second semestre de l'année 2017 et au premier trimestre de l'année 2018, c'est-à-dire un glissement vers les UC. Unité de compte par rapport en euros. On est passé à plus de 30%. Ça veut dire que les gens recherchent, acceptent un peu plus de risques parce que ils souhaitent un rendement meilleur. Mais c'est une décision qui se fait progressivement et avec une forme d'éducation qui est celle auquel on contribue en annonçant ce que sont les chiffres.
Et très rapidement, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes clients. Enfin, chaque épargnant est différent. Il y en a qui sont avertis de ces choses-là ou qui sont suffisamment opportunés pour avoir les moyens d'avoir un accompagnement personnalisé par quelqu'un qui est conseiller en investissement financier, qui a cette compétence et qui va se déplacer parce que les enjeux financiers sont suffisants et que son conseiller est rémunéré. Et puis, il y a l'épargnant plutôt populaire qui, évidemment, ne peut pas intéresser un consultant de cette nature-là et qui lui va avoir besoin qu'on lui propose des solutions encadrées. Mais de ce point de vue-là, le virage numérique que tous les acteurs industriels sont en train de prendre va considérablement nous aider à améliorer le conseil phase de capi, phase de décumulation.
On reviendra sur les annonces de Bruno Le Maire, justement. Il cherche plus de lisibilité, plus de liberté, plus de simplicité. À voir, on verra justement si l'épargne retraite va enfin décoller en France. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bien, alors l'épargne retraite, est-ce qu'elle va enfin décoller en France? On rappelle, hein, le Delta, donc, pas tout à fait 200 milliards d'euros d'encours fin 2016. Le ministre de l'économie voudrait qu'on fasse plus 50% à 300 milliards. Ça reste toujours bien, bien, bien loin des encours de l'assurance vie. 1700 milliards d'euros, donc 8 fois plus, donc si on calcule bien. Bon, il y a une volonté de la part de Bruno Le Maire de simplifier les produits d'épargne retraite. Et c'est vrai que tout à l'heure, Guillaume Sombrère, qui co-présente Intégral Placement, nous le rappelait, ce PERP individuel, ce PERCO collectif, ce plan d'épargne entreprise, l'article 83, les contrats Madelin pour les indépendants, des produits très compliqués, des produits parfois qui peinent à décoller, Guillaume Sombrère.
Oui.
Le but, c'est quoi? C'est dépoussiérer les dispositifs existants. Pourquoi ne pas les avoir simplifiés quelque part en fusionnant certains d'entre eux, comme il a été question dans un certain nombre de consultations? C'est trop loin à faire?
Ben, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il a dit on aurait bien aimé simplifier en unifiant les différents produits d'épargne retraite, sauf que ça aurait pris trop de temps. Et ce gouvernement, il veut des résultats, il veut des résultats rapides, il veut créer un choc psychologique, il veut marquer de son empreinte cette idée de transformation, sauf que parfois, certaines transformations, lorsqu'on voulait faire en profondeur, elles prennent du temps et il voulait marquer un signal. Voilà. Donc, il renonce à cet aspect-là de la réforme, à savoir fusionner, faire vraiment converger en profondeur dans leur ADN même les différents produits d'épargne retraite. Là, on les fait converger juste fiscalement dans certaines de leurs propriétés, mais pas davantage. Selon moi, ce sera peut-être pas suffisant pour faire aimer les produits d'épargne retraite tels qu'ils sont aux Français. Ce sera pas suffisant. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, ce sera selon moi d'autant moins suffisant que qui détient l'essentiel de l'épargne financière en France ? Ce sont les retraités. Est-ce que les retraités vont investir en priorité dans des produits d'épargne retraite qui s'adressent aux actifs ? Non. Donc une grande partie, majorité de l'épargne en France étant détenue par les retraités, je crains que ce qui a été annoncé tape un petit peu à côté.
Voilà. Et la Fédération française de l'assurance que vous présidez, Bernard Spitz, ce que vous proposiez, c'est un produit d'assurance retraite universel, Revavi, hein, c'est ça? Revavi, je sais pas comment on le prononcer.
Oui,
bon, bref, ça aurait été quoi les atouts, l'avantage, son fonctionnement, justement?
En fait, il y a deux façons de dire les choses. On partage les mêmes objectifs. Je crois que tout le monde est conscient du fait que c'est un maquis, que s'il faut expliquer la complexité des différents produits, de leur fiscalité différente, etc., c'est vraiment un c'est surhumain. Et en plus, ça ne correspond pas au temps moderne. Aujourd'hui, quelqu'un peut être successivement salarié, entrepreneur,
resalarié,
etc.
Bien sûr.
Et voire fonctionnaire, et il y a donc des régimes différents. Et donc, nous, on proposait, dans le sens même de la réforme, de ce point de vue-là, encore une fois, c'est peut-être des solutions différentes, mais pour un même objectif et une même finalité, c'est de simplifier les choses et effectivement de converger tous ces produits en faisant en sorte qu'ils soient donc portables, ce qui est aussi l'objectif du gouvernement.
De Bruno Le Maire.
Qu'ils soient universels, c'est-à-dire que quelle que soit votre situation, vous y ayez accès, qu'ils soient garantis, parce que ça, c'était un point fondamental pour la retraite,
rassurer,
pour qu'elle soit garantie. On avait une autre philosophie par rapport aux mêmes objectifs. Donc on peut tout à fait concevoir, mais je crois que ce que vous disiez
à l'instant
était juste. Il y a une volonté d'aller vite. Je pense que les choses ne sont pas incompatibles et qu'il y aura un débat intéressant à avoir par la suite des choses, notamment au Parlement, sur la façon d'arriver au meilleur résultat. Encore une fois, puisqu'on a les mêmes objectifs. Après, je pense que l'intérêt pour les Français, c'est effectivement de simplifier les choses, parce que il y a rien qui les angoisse plus que il y a deux choses. Il y a le risque et il y a la complexité.
Oui, c'est ce que vous rappeliez, Jérôme Dédéian. Je regardais tout à l'heure votre blog, justement, chez RS. Hein. Le classement qu'avait fait Mercer il y a quelques mois. La France, 16e dans le classement mondial des régimes de retraite, derrière la Suisse, le Canada ou encore l'Allemagne, hein, classement dominé par le Danemark, les Pays-Bas, l'Australie. On n'y arrive pas. C'est quoi le problème principal en France?
Ben pour moi, il y en a deux. Hein. Il y a d'abord le fait que notre répartition est très élevée. Donc on a quand même aujourd'hui, hein, dans les revenus de nos retraités, une part de la répartition des régimes obligatoires qui est très très élevée par rapport aux autres pays comparables. Bon. Et donc ça veut dire que l'incitation à mettre de côté pour sécuriser un complément de revenus supplémentaire, finalement, elle est moindre en France, notamment dans les classes populaires, à cause d'un taux de servi par la répartition qui est très élevé. On va continuer à réformer, alors on peut dire si c'est systémique, paramétrique, etc. Tout le monde sait que tout ce qu'on va faire en réforme des retraites, même si ça va chercher plus d'équité sur les régimes par répartition, on va pas se faire dans le sens d'une augmentation générale des pensions. Je pense pas que ce soit le sens de l'histoire, pour deux raisons. D'abord parce que tout ce qui finance les régimes, c'est-à-dire le taux d'emploi, d'une part, et deuxièmement, le taux migratoire et la capacité des citoyens et des entreprises à supporter des cotisations supplémentaires est quand même restreint, si je puis me permettre. Donc, par définition, ça va pas dans le sens. Donc, ça veut dire qu'en même temps, il faut faire décoller la capitalisation. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il
y a vraiment une volonté, justement, derrière les annonces de Bruno Le Maire de préparer des solutions par capitalisation pour financer les retraites, c'est assumé vraiment, franchement?
Ah ben moi je pense que c'est vraiment assumé, il y a pas de débat. On peut discuter de savoir s'il fallait le faire à l'occasion de la réforme des régimes par répartition pour dire je m'occupe de la répartition pour la sauver, la sécuriser, la rendre plus équitable et par ailleurs
le
développer des solutions de capi.
Ils le dit pas directement là.
Ils ont décidé de le faire dans PAC pour déconnecter les sujets, c'est un choix politique, je sais pas si c'est le bon et honnêtement je ne me garderais bien, et Dieu merci c'est pas moi qui étais au gouvernement, je me garderais bien de savoir si c'était le bon choix
vous
de faire dans PAC indépendamment de la réforme
justement.
De répartition, de le faire en même temps.
Est-ce qu'il fallait prendre des mesures en lien avec la réforme des retraites? Est-ce qu'il fallait prendre des mesures en lien avec la réforme des retraites qui va être faite en 2019? Il gagne du temps le gouvernement.
En fait, ils avaient le choix entre le faire ou pas le faire.
Ouais.
Je pense qu'ils avaient, ils ont quand même un prix financement de l'économie productive, hein, fléchage de l'épargne,
faire des
économies de finances, exactement. Donc c'est financement des infrastructures, financement des entreprises, et que donc ils sont pressés de le faire. Voilà. Et donc c'est ça qui probablement fait pencher la balance devant le fait qu'on le fait maintenant dans PACTE, déconnecté de la réforme de la répartition, alors qu'il n'aurait pas été illégitime politiquement de dire je sauvegarde la répartition et par ailleurs je développe un vrai pilier.
Mais même là-dessus, je suis pas sûr.
Guillaume Sabrer.
Je suis pas sûr que vous dites le gouvernement veut aller vite et notamment pour que cette épargne, l'épargne soit utile à l'économie productive et qu'elle s'investisse dans les entreprises. Mm-hmm. Je suis pas sûr que les Français, dans leur grande majorité, savent que les produits d'épargne dont on parle, le PERCO, le PERP, etc., que tout cela finance les entreprises.
Mm-hmm. Alors, en fait,
on l'a même pas expliqué d'ailleurs.
Cedrus Partners.
C'est quand même largement vu comme des outils de spéculation où parfois vous devez investir sur les marchés émergents, sur des actions US et c'est assez loin des préoccupations de l'épargnant. Donc en effet, aller dans le financement de l'économie réelle, du tissu local, ça va dans le bon sens, mais attention, en effet, y a un vrai besoin de conseils, on le dit encore. Sur les 10 dernières années, les titres sur les PME ETI ont fait des meilleures performances que les grands comptes. Pour autant, lors de la prochaine crise, il ne faut pas que cet envolé, cet amour, cette réconciliation des salariés sur le financement de l'économie réelle prenne un coup lorsque les titres des PME ETI des non cotés va avoir cette baisse, parce que ça n'agit pas comme amortisseur en cas de baisse. Il faut vraiment les éduquer à avoir cet horizon moyen long terme, à dire que dans ces cas-là, il ne faut pas agir avec émotion et sortir, mais il faut vraiment accepter d'avoir une position un peu plus durable.
Et c'est pour ça que dans ces produits, plutôt d'épargne longue, à versement régulier, ce qui lisse le risque de l'entrée de marché de l'épargne, et avec des possibilités de sécurisation progressive, avec une bonne diversification, on obtient normalement une protection de l'épargnant qui est suffisante et qui peut être organisée. Et là, c'est évidemment la créativité des acteurs industriels de tout type, plus les gens qui les accompagnent, qui accompagnent les épargnants, qui vont permettre de le faire.
Bernard Spitz, président de la FFA.
Et ça montre bien que tous les produits ne sont pas indiqués pour n'importe quel public.
Vous disiez tout à l'heure, donc, on revient là-dessus.
Et je crois que ce qui est important, c'est qu'il va y avoir donc un débat au Parlement, et je pense que ça va être l'occasion d'un débat, On dit les assureurs sont bien traités, les gestionnaires d'actifs, tout ça. Moi, je pense que c'est un débat de société, hein, fondamentalement. La gestion, la capacité de risque ou pas que l'on accepte pour des gens selon la nature de leur situation personnelle, leur âge, leur fragilité, la famille qu'ils ont autour d'eux, etc. On peut pas généraliser les choses. Et je crois qu'il faut arriver à concilier les deux. Et ça, c'est pas un sujet pour telle ou telle catégorie professionnelle. C'est vraiment un débat qui intéresse l'ensemble du corps social.
Exactement. Et donc, on sera tous d'accord pour dire qu'il faut partir de l'épargnant, parce que c'est l'épargnant final, c'est l'intérêt de l'épargnant final qui nous intéresse. Et j'ai presque envie de dire que l'objectif de financement de l'économie n'est qu'une résultante du respect de l'intérêt de l'épargnant sur une allocation d'épargne longue, et non pas un objectif en soi ou pour faire le financement de l'économie avec l'épargne des Français malgré les Français. Voilà. Ça, c'est un point qui est fondamental. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus.
L'assurance vie, Guillaume Sommerer, auteur de Placement musclé votre épargne dès le premier euro, l'assurance vie, on y touche ou pas?
Alors, il y a finalement pas de révolution de l'assurance vie. Il nous avait dit, Bruno Le Maire, qu'il y aurait de profonds changements, peut-être même une révolution. C'est ce qu'il disait il y a plusieurs mois. Et puis maintenant, il nous dit, non, finalement, il n'y a pas de révolution de l'assurance
vie. Pas de grand soir, c'est ça?
Non, pas
de
grand soir.
C'est pas l'expression que je dis.
Pas de grand soir, notamment sur les fonds euros, dont la garantie reste totale dès le premier jour. Donc finalement, la sécurité du fonds euro n'est pas remise en cause. En revanche, ce que proposent Bruno Le Maire et Bercy, c'est d'améliorer l'euro croissance, qui apporte un peu plus de rendement que le fonds euro.
C'est quoi ce nouveau support d'assurance vie? Parce que
c'est pas nouveau, malheureusement.
Non, enfin, je dis, voilà, les produits qui existent depuis 4 ans qui n'ont jamais tellement décollé.
Oui, d'ailleurs.
C'est quoi, pourquoi? Dites-nous.
En fait, l'euro croissance, il permet d'investir dans l'assurance vie, mais sans la garantie du capital, ou en tout cas, elle n'arrive que beaucoup plus tardivement. Donc, vous perdez la sécurité que vous apportez le fonds euro dans les premières années. En revanche, vous gagnez en potentiel de rendement. Mais je parle bien de potentiel de rendement, puisque ce rendement qui vient en contrepartie de la perte de la garantie, de la perte de sécurité, ce rendement n'est qu'un potentiel. Il n'est pas garanti non plus.
Je vous permets de préciser un petit peu. C'est en fait l'idée, c'est de concilier. C'est une idée qui est très pertinente et qui est née à froid, je dirais, sans crise, lorsqu'il y a eu une réflexion qui a été engagée il y a 5 ans. Et c'est une réflexion à laquelle beaucoup des acteurs présents étaient impliqués. Donc, l'idée, c'est de dire, les Français veulent de la sécurité. Ok. Mais si on reste dans les fonds en euros, le capital peut pas être investi de façon suffisamment risquée. Donc l'idée, c'est, on va faire de la sécurité, mais à terme. C'est-à-dire que c'est au bout seulement d'un certain nombre d'années que il y a la garantie sur le capital. Si on veut sortir avant, eh bien, à ce moment-là, c'est à vos risques et périls. On peut, mais c'est à vos risques et périls. Alors pourquoi c'est un très bon produit? Parce qu'en fait, si votre horizon de temps dépasse celui du terme, vous ne pouvez pas être perdant, puisque vous avez votre garantie. Vous pouvez être gagnant, mais faut-il que les conditions soient réunies. Or, ce qui s'est passé,
vous avez pris un risque pour un rendement qui reste tout à fait hypothétique. Mais c'est le principe. C'est le principe de la.
C'est seule l'expérience montre. C'est-à-dire, vous faites vos preuves. En fait, on a fait les calculs cette année. Quand on regarde l'année dernière, le rendement de recroissance, c'est vrai que qu'il a un faible volume, mais il était intermédiaire, ce qui est d'ailleurs logique, entre les UC. Et l'euro. Et l'idée, c'est que, en fait, pourquoi ça n'a pas marché? Faut quand même dire les choses. Ça n'a pas marché parce que les textes qui devaient sortir au moment où il a été conçu ne sont pas sortis. Il y a même un ministre du budget qui s'est excusé publiquement pour ça. Et donc, il s'est passé qu'on a perdu 2 ans comme ça. Et pendant ces 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les taux d'intérêt se sont effondrés. Et les taux d'intérêt s'étant effondrés, on s'est retrouvé, comment vouliez-vous que ce produit puisse concurrencer, alors qu'il partait de zéro avec des taux d'intérêt quasiment de 1%, comment vouliez-vous qu'il concurrence les fonds qui, eux, avaient accumulé depuis des décennies des provisions et de différentes? Donc, il fallait un certain nombre de modifications qu'on a bien identifiées. Et c'est ces modifications qui sont actuellement en débat et dont j'espère qu'effectivement, ils seront contenus.
Et qui vous rendent optimiste sur l'avenir de l'eurocroissance.
Ça change complètement la donne pour l'eurocroissance. Donc, il ne faut pas raisonner avec les éléments, disons, déceptifs du passé. Mais se dire qu'on est dans une configuration nouvelle et que là on a les moyens de.
Mais Bercy vous demande d'être plus offensif, de simplifier ses contrats justement et afficher très clairement le rendement.
Mais c'est un sujet qui ne dépendait pas que des assureurs, il dépendait fondamentalement de la réglementation.
Guillaume Sommerer.
Bercy est quand même hyper ambitieux là-dessus parce qu'ils espèrent que les encours sur l'eurocroissance passent.
De 2 à 20 milliards d'euros.
En 2 ans.
En 2 ans, ouais.
Mais d'abord, c'est pas. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ça prend du temps. Et s'il fallait parler d'un vrai sujet qui rêvite, mais ça je veux pas tuer nos auditeurs, il faudrait parler de solvabilité 2, parce que ça, vous changez les choses. Pas ce soir. Mais le problème, c'est qu'il va falloir des textes, des décrets, des changements informatiques, de l'éducation du personnel, de la relation avec la clientèle. Ces choses-là prennent un peu de temps.
Petit tour de table pour terminer. L'épargne retraite va-t-elle enfin décoller? Révolution, vraiment? Pas de Big Bang? Réforme au rabais ou pas? Allez, chacun un mot. Guillaume Sommerer.
Qui ne tente rien à rien. L'idée, à mon avis, ça va participer à éduquer les Français sur le fait qu'il existe. D'abord, comprendre le système dans lequel on vit. C'est tout simplement ça.
Très bien,
Quand on réforme les choses, on montre aux gens que les choses ne sont pas inscrites dans le marbre, qu'elles tombent pas du ciel et qu'on essaie de leur donner du sens. Donc de ce point de vue-là, ça peut être éducatif. Après, on n'est pas sur une harmonisation et encore moins une fusion des produits retraite. Et à mon avis, ça reste un peu complexe face à l'immobilier pour préparer sa retraite. À mon avis, ça va être un peu compliqué de concurrencer cet immobilier qui rassure tout le monde et qui reste le premier placement.
Odell Gemayel.
Il faut aller dans le sens de la simplification des dispositifs, des supports, peut-être l'harmonisation, rechercher d'autres solutions. Ouais. Il y a par exemple des supports de placement. Nous, on conseille nos clients en EHPAD salarial, notamment là-dessus, d'introduire des supports avec de la performance absolue. Quelles que soient les évolutions de marché, vous avez un objectif de rendement, ça peut aussi plus coller aux attentes des épargnants.
Et Jérôme Dédéian et Bernard Spitz pour finir.
Moi, je pense que ça va prendre plus de temps que ce qu'imagine le gouvernement, parce qu'il va falloir que toute la chaîne s'adapte, les industriels, les distributeurs, la mentalité des épargnants, mais qu'on n'est pas en face d'une réformette. On n'est fondamentalement pas en face d'une réformette, j'en suis intimement persuadé, donc je pense qu'il y a risque positif que l'épargne retraite décolle vraiment en France, parce qu'on a libéré les conditions à la sortie pour que les gens aient envie de remplir le tuyau, qu'on a rendu le truc portable, mais là j'ai un caveat qui est qu'il faudra que ce soit portable jusqu'au bout, c'est-à-dire avec libre concurrence d'acteurs, et qu'il n'y ait pas encore des précarés pour les fonctionnaires, des précarés pour les personnels hospitaliers, des types de contrats non transférables en changeant de prestataire, etc.
Des retraites, c'est pour ça,
Et je pense que sur la partie individuelle, ça va très bien fonctionner. C'est là où il y a finalement la réforme est la plus importante. Sur la partie collective, moi je me réjouis, puisqu'on accompagne des entreprises tout le temps, qu'on ait gardé la possibilité d'avoir une solution collective peu coûteuse, négociée avec une gouvernance et une solution ciblée pour traiter les problèmes de taux de remplacement des gens qui ont le plus besoin, c'est-à-dire des cadres.
Alors, il a quasiment bouffé tout le temps, Jérôme Dédéian. À vous, Bernard Spitz.
L'ambition est juste. Oui. C'est le bon moment pour essayer de changer le système. Il faut débattre des bonnes solutions qui permettent de concilier l'efficacité et la sécurité.
Voilà, merci Bernard Spitz, président de la Fédération Française de l'Assurance. Jérôme Dédéian, donc, qui intervient dans Les Experts avec Nicolas Dose régulièrement sur BFM Business, et le fondateur de la société de conseil et de gestion RS. Aude L. Gemayel, directrice du pôle entreprise chez Cedrus Partners, une société de conseil d'investissement. Et puis Guillaume Sommerer, tous les matins avec Cédric Decoeur, intégral placement de 10h à midi sur BFM Business, auteur de Placement musclé, votre épargne dès le premier euro. On parlait d'aller promouvoir l'éducation financière des Français. On est là à profiter pendant ce long week-end du 8 mai, de l'Ascension la semaine prochaine. Merci à tous les décodeurs de l'écho qui reviennent vite, j'espère.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.